Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a interdit vendredi 28 juin aux gouverneurs du Haut-Katanga et du Kinshasa de présenter leurs programmes respectifs devant les assemblées provinciales. Dans un télégramme signé ce vendredi, Jacquemain Chabani a instruit toutes les affaires cessantes des deux gouverneurs à se présenter à son bureau à Kinshasa. Le message du vice-premier ministre intervient au lendemain de la publication par le gouverneur Tshabula du Haut-Katanga de la liste des membres composant son gouvernement, une équipe constituée de 10 ministres et 10 commissaires généraux. Le mercredi dernier, c'est le gouverneur de la ville et province de Kinshasa, Daniel Mbumba, qui a publié son équipe gouvernementale avec également 10 ministres et 10 commissaires généraux. Certains experts estiment que les deux gouverneurs se seraient rendus coupables du non-respect de la loi en matière de désignation des membres du gouvernement provincial. Ces derniers révèlent que la Constitution ne reconnaît pas la présence des commissaires généraux au sein des gouvernements provinciaux. Que pensez-vous de la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio le professeur Norbert Yambayamba. Il est directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Bonsoir professeur Norbert Yambayamba.
Bonsoir. Bonsoir Guy. Je voudrais également saluer le professeur Ngonda Koyi et l'honorable Kassaji. J'espère qu'on va passer un bon moment d'échange. Rentable.
Merci. En ligne, justement, Alphonse Ngoy Kastanji. Il est député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Il est élu de la ville de Mbujimayi. Il a été gouverneur de la province du Kasaï oriental pendant 12 ans. Il est également président du collectif des gouverneurs honoraires. Bonsoir, honorable Ngoy Kastanji.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir, professeur Norbert. Yamba. Honorable professeur Nkondangoy, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bonsoir, et Paul Gaspard Ngonankoy, il est député national élu de Yaouma en province de la Tchopo, il est professeur des droits constitutionnels. Bonsoir, professeur Paul Gaspard Ngonankoy.
Salut seulement les collègues, honorable Ngoy Kassanje, les chers collègues, ainsi que le DIRCAB, le professeur Yambayamba Norbert.
Merci une fois de plus à tout le monde, bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
C'était hier lundi que le gouverneur du Haut-Katanga et de Kinshasa devrait être reçu par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur qui les a convoqués. D'après plusieurs sources, les deux ont nommé chacun dans son gouvernement au-delà des 10 ministres provinciaux, 10 commissaires généraux, ce qui est contraire à la Constitution. À ce sujet, Justicia Asbel a, dans son communiqué de presse publié samedi, demandé aux vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur de décourager ce genre d'actes en ramenant tous les monde au respect de la Constitution. On écoute Timothée Mbouya, président national de Justicia Asbel, au micro de Jean Gandou.
Justicia demande au gouverneur précité d'annuler toute affaire cessante, ses arrêtés portant nomination des commissaires généraux en violation de la Constitution. Justicia fait constater également que les gouverneurs précités sont animés par la volonté d'avoir des équipes pléthoriques. Ces équipes vont certainement avoir un impact sur les budgets au niveau du gouvernement du Haut-Katanga ainsi que de Kinshasa. Justicia constate également que les gouverneurs ont été victimes de pression de la part des autorités morales des partis politiques qui exigent de la nomination de leur ami ou de leur membre de famille. Justicia invite les autorités morales à cesser d'exercer toute influence négative sur le fonctionnement des gouvernements provinciaux. Justicia encourage également les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur à frapper encore dur contre les gouverneurs qui seraient tentés de violer les dispositions légales. Justicia encourage les autres gouverneurs qui n'ont pas encore publié leurs gouvernements provinciaux à se conformer aux prescrits de l'article 198 alinéa 5 de la Constitution.
Professeur Norbert Yambayamba, vous êtes ici avec nous au studio. Vous êtes directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Comment vous expliquez cette décision du VPM intérieur?
Bon, je voudrais vraiment remercier tous les participants à cette émission, surtout nos auditeurs, hein, de tout le temps, etc.
Pour l'intérêt. Auditeurs et internautes.
Etc. Écoutez, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est censé être le ministre qu'on appelle de tutelle. Tutelle, pas pour arracher les compétences reconnues aux provinces, mais il est censé être le gardien du temple. Vous vous rappelez que lorsque les nouveaux gouverneurs ont été nommés, nous avons pensé que la plupart d'entre eux n'étaient pas suffisamment informés sur les exigences de cette nouvelle fonction. Et pour leur émettre les notifications, il a été organisé une sorte de séminaire de mise en train. Avant de démarrer, voilà les ABC de ce qui représente leur gestion quotidienne. Parmi les principes qui ont été mis à la disposition du nouveau gouverneur, c'était celui aussi du respect de l'article 198, qui consistait à respecter le nombre de ministres tel que demandé, tel qu'exigé par la loi et les textes réglementaires. Il fallait 10. Certainement qu'à cette époque, à ce moment-là, nous avons, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Excellence Jacquemin Chabani, demandé à ce que on puisse respecter strictement cette disposition. Mais néanmoins, les provinces, étant autonomes dans le cadre de la loi 012, peuvent organiser des services. C'est comme ça qu'à une certaine époque, vous avez vu, on a organisé les régies financières. Hein, chaque province dispose des régies financières. C'est au regard, n'est-ce pas, de la responsabilité qui est dévolue par à leur autonomie. Et si il advenait que les provinces ont besoin d'un tel ou tel service, n'est-ce pas, ils n'ont qu'à organiser le service et prendre un arrêté en bonne et due forme. Intervenir, informer à l'autorité. Et c'est ce qui leur avait été dit en termes de principes directeurs qui devraient véritablement les aider à pouvoir mettre en place des équipes gouvernementales. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il s'agit également du budget. Vous savez qu'en fait, il y a une sorte de répartition de rôles. La restructuration géographique de notre pays exige deux pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Il y a trois niveaux de gouvernance, le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Mais il y a une répartition des rôles, il y a une répartition des compétences. Il y a tant six compétences exclusives pour le niveau central, il y a également des 29 compétences exclusives pour la province. Il y a 11 compétences partagées. Ça, c'est au niveau de la répartition des rôles et des compétences. Cependant, le gouvernement central, qui dispose de 36 compétences plus 11 compétences partagées, a un budget. Le gouvernement provincial dispose également de 29 compétences à un budget. Et vous savez, la moyenne des budgets de province, la moyenne, c'est de 500 millions, toute proportion réservée. Et donc, quand vous regardez l'ampleur des problèmes qui se trouvent en province, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On a besoin de moyens, on a besoin de ressources pour que finalement on puisse combattre la pauvreté. C'est dans ce contexte contextualisé qu'il a été demandé de ne pas suivre les abêties des hommes politiques pour violer la loi qui est véritablement prédestinée dans ces conditions. Et de prendre les ressources qu'on pouvait vraiment confier, n'est-ce pas, aux ministres, aux compagnies, etc., supplémentaires, ça c'est évident, de pouvoir prendre cet argent et mettre pour que finalement on puisse résoudre le problème de la population. Donc, toutes ces deux conditions réunies pouvaient pousser la conviction de l'autorité pour dire, en tout cas, pas au-delà des 10 ministres. Même si il y a, on veut aller dans la perspective de mettre en place, ne sais pas, 2 ou 3, mais qu'on organise et qu'on informe l'autorité en bonne et due forme. Certainement que, bon, ils avaient suivi. Ils étaient avec le président de la République, parce qu'il y a tout au finish. On est allé voir le président de la République qui est revenu sur ça. Mais malheureusement, cela n'a pas été entendu parce que 48 heures après, il y a eu des gouvernements. Mais cela n'exclut pas que la province, au regard de son autonomie, organise des services. Ça relève véritablement de leurs compétences. Mais quel service, quel contenu on donne à ces services dès lors que c'est connu que le commissaire généraux sont censés être des ministres non apparents.
Oui.
C'est ça.
Professeur Yabayamba, pour faire comprendre aux gouverneurs qu'ils doivent se conformer aux textes des lois, était-il nécessaire de les convoquer à Kinshasa?
Ben, écoute, on vous donne des instructions. Et 48 heures après.
Il y a des canaux par lesquels on peut passer pour faire signifier ça au gouverneur.
Une invitation n'est pas un sacrilège. Et quand on voit que il y a 48 heures, et puis le soir ou le matin, on va procéder à l'investiture du gouvernement, dès lors que cela est en violation d'une loi, etc., on fait quoi?
Il faut
appeler pour qu'on discute, pour que chacun donne ses motivations. Ils sont arrivés hier, ils ont rencontré l'autorité. Voilà.
Voilà, vous avez évoqué la disposition constitutionnelle, hein, l'article 158 de la Constitution, à son alinéa 5, qui stipule que les gouvernements provinciaux ne peuvent pas avoir plus de 10 membres, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Mais ici, les deux gouverneurs, apparemment, étaient prudents parce qu'ils parlent de 10 ministres. 10 ministres à côté desquels on ajoute 10 commissaires généraux. Les commissaires généraux ne sont pas des ministres.
Excusez.
Les deux gouverneurs ont nommé, chacun dans son gouvernement, 10 ministres. Ils n'ont pas nommé 20 ministres. 10 ministres, cela veut dire qu'ils se conforment à la loi.
Et ne soyons pas trop aïrois. Hein, parce que lorsqu'on fait quelque chose, et c'est comme ça que le pays n'a pas l'air d'être très très bien boosté. C'est très clair. Et que la motivation qui a mérité à la mise en place de cette disposition qui interdit qu'on y aille au-delà des 10 ministres, c'est justement le fait que les gouvernements provinciaux ont la responsabilité de lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté suppose avoir des ressources. Et aujourd'hui, à chaque jour, les gens perdent de l'argent.
Alors, si vous me dites que les commissaires généraux ont rang des ministres, là je vous comprends. Est-ce qu'ils ont rang des ministres?
Oui, les commissaires généraux, moi ça fait une trentaine d'années que je suis dans ce métier. Les commissaires généraux ont rang de ministres. Ce sont des ministres, ils siègent au conseil des ministres provinciaux, au conseil des ministres provinciaux, etc. Je dis que, vous savez, il faut éviter une sorte de confrontation entre institutions, parce que les goûts chassent les capitaux.
Alors, comment vous expliquez le fait que, alors que ces gouverneurs venaient d'être instruits par rapport à ça, parce qu'ils étaient tous à Kinshasa, vous avez parlé des échanges entre les gouverneurs et les VPM ici à Kinshasa, récemment, vous avez parlé même du chef de l'État qui est revenu sur ça, comment vous expliquez qu'une semaine après, deux semaines après, bon, les gouverneurs forment le gouvernement, et ils vont au-delà de ce qui leur avait été donné comme consigne.
Mais c'est justement pour cette raison qu'on avait besoin d'eux pour les écouter. Parfois, ils ont des raisons résonantes. Eh bien, il fallait vraiment les présenter.
Et à votre avis, ça peut être lié à quoi?
Non, parce qu'en réalité...
Ce n'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas nouveau. On sait que depuis toujours, on dénonçait cela, mais bon, il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas d'interpellation. Et là, on commence à interpeller. Mais comment on en est arrivé là?
Il faut parler d'irrégularité en irrégularité.
Voilà, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé de 10 ministres, on passe de 10 ministres à 20 ministres, en fait, même si on ne les appelle pas ministres, mais au moins on a un gouvernement qui est composé de 20 personnes. Comment on en est arrivé là?
On est arrivé là simplement parce que, vous savez, comme on sait que nous sommes dans une sorte de coalition où il y a plusieurs personnes, les gens sont très préoccupés à être présents dans tel ou tel gouvernement, etc. Et donc, j'ose croire que les gouverneurs sont pourchassés. Ils sont sous pression, etc. Et ils peuvent poser parfois des actes contrôlés. Mais ici présent, il faut reconnaître qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre au regard de la loi qui donne la possibilité au gouverneur d'organiser des services. Et j'ai vu qu'il y a des gouverneurs qui ont finalement envoyé l'arrêté de création des services. Mmh. Le grand problème, c'est que l'instruction a été donnée et on passait directement à ce qu'on a interdit. Et puis, on envoie le soir la création de services qui correspondrait pratiquement à ce qui a été mise en place en termes de commissaires généraux. C'est ça un peu le problème. Si à un moment donné le gouverneur a envoyé ses arrêtés qui organisent les différents services dans un délai relativement acceptable, si ces services sont organisés de telle sorte qu'ils ne puissent pas ponctionner les moyens qui sont dévolus à la province pour concourir à la lutte contre la pauvreté, je pense qu'on partagerait le même langage. Et même si on peut mettre en place des commissaires généraux, mais vous ne pouvez pas avoir le même nombre, 10 ministres, 10 commissaires généraux, ça donne un peu l'impression que c'est un peu trop.
Voilà. Ils pouvaient en avoir 2-3.
Mais encore qu'il faut respecter la loi.
Merci.
Il faut respecter la loi, prendre un arrêté, définir le service, créer ce service, etc. Et informer à l'autorité. Merci. Mais ici, c'est le même jour, un jour après, et puis bon, les gens reviennent dans ça. Merci. Ça frise un peu, ils sortent d'incompréhension.
Merci, professeur Norbert Yambayamba. Alphonse Ngoy-Kassandji, est-ce que vous êtes là? Alphonse Ngoy-Kassandji, vous êtes là? Allô? Apparemment, il n'est pas là, il est parti, on va essayer de le rappeler. Professeur Gaspard Ngondanko, et vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, je rappelle que vous êtes député national élu de Yaouma, en province de la Tchopo. Vous êtes professeur des droits constitutionnels. Quelle lecture vous faites de cette décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur?
Moi, je voudrais d'abord ici rappeler le contexte. Et quel est le contexte? Nous sommes en 2006, lorsque la population adopte par référendum, plutôt en 2005, la constitution actuelle qui a été promulguée le 18 février 2006 par le président de la République. Et que prévoit cette constitution? Il y a plusieurs options fondamentales qui ont été levées dans cette constitution, dont celle qui concerne la forme de l'État. Et la forme de l'État actuelle, qui n'est plus un État unitaire centralisé ou décentralisé d'hier, c'est une sorte de décentralisation politique qu'on appelle techniquement le régionalisme constitutionnel, qui est en quelque sorte l'antichambre d'un État fédéral. Et qu'est-ce que la Constitution prévoit? La Constitution prévoit, comme vient de le dire le directeur de cabinet, 3 niveaux de pouvoir, avec 2 niveaux de pouvoir qui ont une autonomie politique, à savoir le pouvoir central et le pouvoir provincial, la province. Et il y a une répartition constitutionnellement garantie des compétences qui font que chacun des 2 niveaux de pouvoir a un espace de liberté, un espace des prérogatives qui lui est propre, sans oublier l'espace des compétences concurrentes qu'on vient de le souligner. Et dans ce cadre-là, la Constitution a prévu que les provinces vont se doter des institutions politiques propres qui sont désignées directement par le peuple, dont les animateurs sont désignés directement par le peuple. Et dans ce cadre-là, les règles sont prévues pour la composition, l'organisation de ces institutions politiques provinciales, dont notamment le gouvernement provincial. Et parmi les règles qui existent, et on a évoqué l'article 198 tout à l'heure de la Constitution, on dit que le gouvernement provincial est composé du gouverneur de province, du vice-gouverneur de province et d'un ministre provincial dont le nombre ne peut pas dépasser 10, effectivement. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que lorsque, en 2008, on a adopté la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, dont on prétend que le fondement se trouve à l'article 3 de la Constitution. Eh bien, cette loi, dans son article 27, a prévu que le gouverneur de province peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les règles d'organisation et de fonctionnement du gouvernement provincial, ainsi que les règles de répartition des compétences entre ses membres. C'est une sorte d'arrêté organique qui organise le gouvernement provincial. Et la brèche a été trouvée malignement par des gouverneurs de province pour prévoir que, en plus de la composition qui est fixée dans la Constitution et reprise par ailleurs dans cette loi-là, les gouvernements provinciaux peuvent comprendre en leur sein des commissaires généraux. Donc, l'existence des commissaires généraux trouve son fondement à l'article 27 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si cet article 27 de la loi est conforme à la Constitution. C'est-à-dire à l'article 198 qui a fixé de manière très claire la composition du gouvernement provincial. Poser cette question, c'est en fait demander que la Cour constitutionnelle statue. Et aujourd'hui, ceux qui accusent les gouverneurs de province qui ont agi de cette manière d'avoir violé la Constitution, je me rappelle que si violation de la Constitution il y a, c'est vrai, mais il y a l'écran de la loi qui est là, qui leur a donné une sorte de fondement légal. Poser le problème de la constitutionnalité de ces arrêtés des gouverneurs de province, c'est poser également le problème de la constitutionnalité même de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'administration des provinces. Justement, donc le problème n'est pas si simple.
Oui, justement, professeur Paul Gaspard Morankoy, est-ce que cette loi à laquelle vous venez de faire allusion, la loi sur la libre administration des provinces, en son article 27, est-ce que cette loi ou cette disposition légale est conforme à l'article 198 de la Constitution?
Si vous prenez l'article 27 et vous interprétez les mots organisation du gouvernement provincial comme devant impliquer également sa composition, il est évident que cette manière de comprendre est contraire à l'article 198 de la Constitution, parce que la Constitution a déjà fixé la composition du gouvernement provincial. Mais le constater ne suffit pas. Qui est l'autorité compétente pour constater l'inconstitutionnalité d'une loi? Ce n'est ni le ministre de l'Intérieur, ni le Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que dans le cadre du régionalisme constitutionnel qui est le nôtre, il est prévu à l'article 161 alinéa 3 de la Constitution qu'en cas de conflit de compétences entre le pouvoir central et les provinces, c'est la Cour constitutionnelle qui statue. J'ai l'impression ici que le pouvoir central, ici représenté par le ministre de l'Intérieur, reproche au gouverneur de province d'avoir violé la Constitution. Si tel est le cas, alors c'est l'article 161-3 de la Constitution qui doit s'appliquer. C'est la Cour constitutionnelle qui doit trancher et dire si effectivement ces gouverneurs de province ont violé ou non la Constitution.
Et donc,
restons tous cohérents et conforme à la Constitution.
Et donc, s'il faut être cohérent, comme vous le dites, professeur Paul Gaspard Morankoy, le VPM intérieur devait plutôt, au lieu de convoquer ses gouverneurs ici à Kinshasa, devait plutôt commencer par saisir la Cour constitutionnelle pour, voir si les actes posés par ces gouverneurs sont conformes à la Constitution.
C'est mon avis. D'autant plus que nous sommes dans le cadre d'un régionalisme constitutionnel et non plus dans le cadre ancien d'un État unitaire décentralisé qui impliquait, comme l'a dit le directeur de cabinet tout à l'heure, la notion de tutelle du pouvoir central sur les anciennes régions que nous avions. Aujourd'hui, le régionalisme constitutionnel n'admet plus ce genre de concept. Il n'y a pas de tutelle ni de pouvoir hiérarchique.
Allez-y, professeur. Allô, professeur, je crois qu'il y a un problème.
Allô, vous m'entendez?
Oui, allez-y. À un moment donné, on vous a perdu. Allez-y.
Donc, je disais que dans le cas de la forme d'État actuelle, la notion même de tutelle ne peut même pas être évoquée. La tutelle administrative existe lorsqu'il s'agit d'une décentralisation administrative dans le cadre d'un État unitaire. Nous avons déjà dépassé ce stade, nous sommes au niveau où les provinces ne sont plus de simples entités administratives, elles sont devenues des composantes politiques et administratives du pays, avec des compétences qui sont garanties dans la Constitution, au niveau politique, au niveau administratif, au niveau financier, etc., etc.
Voilà. Et
donc, mon avis, c'est celui-là. S'il y a reproche à faire au gouverneur de province pour avoir violé la Constitution, la voie est indiquée par l'article 161, alinéa 3 de la Constitution.
Professeur Paul Gaspar Ngonankoy, vous ne pensez pas qu'il y a eu une sorte de laisser-aller en amont lorsqu'on avait élaboré cette loi portant libre administration des provinces élaborée et adoptée? Et on a commencé à l'appliquer. Vous ne pensez pas qu'il y avait un laisser-aller? Parce que si, en amont, on avait saisi la Cour constitutionnelle pour savoir si cette loi était conforme à la Constitution, peut-être qu'on aurait, réglé ces problèmes-là, parce que vous avez évoqué l'article 27 de cette loi qui ouvre la brèche, n'est-ce pas, qui donne la possibilité aux gouverneurs de pouvoir avoir au sein de leur gouvernement, en plus des ministres, les commissaires généraux. Est-ce qu'il n'y avait pas eu en amont un laisser-aller?
On peut le dire comme ça, mais la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces n'est pas une loi organique pour que son contrôle de constitutionnalité soit préalable et obligatoire. Mmh. C'est une loi ordinaire.
Okay.
Il suffit que quelqu'un puisse découvrir s'il y a une inconstitutionnalité, puisse saisir la Cour constitutionnelle, mais ce n'est pas une loi organique. Ce qui veut dire que la loi pouvait être adoptée par le Parlement, promulgué par le chef de l'État, sans qu'on se rende compte de son inconstitutionnalité. Mais par la suite, si c'est le cas, toute personne en vertu de l'article 162 de la Constitution peut saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de cette loi. Évidemment, c'est une brèche, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous laquelle les gouverneurs se sont engouffrés pour pouvoir élargir inconstitutionnellement la composition de leur gouvernement.
Merci.
Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'un problème de la constitutionnalité des arrêtés des gouverneurs, c'est d'abord l'écran de la loi qui fait que le gouverneur de province se croit agir dans la légalité en recouvrant l'article 27 de cette loi-là.
Et il n'aurait pas tort, n'est-ce pas?
De ce point de vue, par rapport à la légalité de leurs arrêtés, il n'aurait pas tort. Mais non. Étant donné qu'il y a un problème de constitutionnalité, effectivement, de cette loi, le problème persiste.
Merci Alphonse Ngoïka Sandi, est-ce que vous êtes là?
Je suis là du matin.
Voilà, je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes élu de la ville d'Mbujimaï. Vous avez été gouverneur de la province du Kassai-Oriental pendant 12 ans. Vous êtes également président du collectif des gouverneurs honoraires. Comment vous comprenez cette démarche du VPM intérieur, Jacquemin Chabani, qui interdit au gouverneur, n'est-ce pas, d'Yo Katanga et de Kinshasa, de présenter leurs programmes respectifs devant leurs assemblées provinciales?
Il y a des difficultés à relever qui sont perceptibles et récurrentes dans les chefs des différents vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur du gouvernement de la République. C'est la violation de la Constitution et des lois de notre pays. La relativisation de leur application. Donc le principe, la conséquence est le non-respect de l'architecture de la République et de ses institutions. Nous avons la constitution de notre pays qui consacre les niveaux de pouvoir, deux niveaux de pouvoir, le niveau central et le niveau provincial. Et voir un ministre du gouvernement central qui rappelle les gouverneurs des provinces ici à Kinshasa, c'est une violation tout simplement des dispositions constitutionnelles. Si il y a un acte administratif, parce que l'arrêté du gouverneur est un acte administratif, si ça viole les dispositions constitutionnelles, oui, parce que ça viole bien sûr, même la loi sur la libre administration des provinces dans son article 23, alinéa 5 et 10, cette loi détermine également, ces dispositions déterminent également le nombre de membres du gouvernement. C'est 10 ministres. Donc dans la loi sur la libre administration des provinces, article 23, alinéa de 5 à 10, il y a la limitation des nombres des ministres provinciaux. Alors, s'il y a violation des dispositions à la fois de la Constitution et de la loi sur la libre administration des provinces, on saisit le Conseil d'État. L'arrêté du gouverneur est un acte administratif. On peut saisir le Conseil d'État pour déterminer sa légalité ou non. Alors, mais rappeler le gouverneur de province, je ne vois nulle part où il y a cette le niveau de collaboration, bien sûr, pas la relation de subordination. Non, non. Je pense que c'est une violation flagrante de la Constitution. Et la question du jour, je ne suis pas aussi... c'est illégal, le nombre de ministres. Les astuces trouvées par le gouverneur, des commissaires généraux et tout ça, c'est tout simplement une violation flagrante de la Constitution.
Voilà, c'est une violation flagrante de la Constitution. Et on rappelle que vous étiez gouverneur pendant 12 ans. Et vous voulez dire qu'il ne vous est jamais arrivé d'avoir au sein de vos différents gouvernements plus de 10 membres?
Non, on n'en a pas eu plus de 10, mais je reconnais que nous avions eu les secrétaires exécutifs du gouvernement qui n'avaient pas rang de ministre.
Est-ce que ce n'est pas un problème de termes? Commissaire général, secrétaire exécutif, est-ce que ce n'est pas dit bonnet, blanc bonnet? On peut jouer sur les mots alors que les personnes sont traitées comme les ministres, les personnes ont rang des ministres. Ce n'est pas ça, monsieur Ngoy Kassanji.
Non. Chez nous, dans notre arrêté, il y avait les compétences qui étaient déterminées. Donc, dans notre arrêté, la responsabilité des secrétaires exécutifs était définie dans l'arrêté. C'était de faire les suivis des actions du gouvernement, l'application des décisions du gouvernement, etc., etc. Donc, il n'y avait pas... ces secrétaires exécutifs n'avaient pas rang de ministre, d'abord, dans notre arrêté.
Alors, qu'est-ce qui vous pousse à faire, qu'est-ce qui peut pousser un gouverneur à aller jusqu'au-delà des 10 membres au sein de son gouvernement? Est-ce que vous estimez que 10 ministres, avec tout ce qu'il y a comme problème au sein des différentes provinces, avec toutes les pressions, n'est-ce pas, des autorités morales depuis Kinshasa, vous estimez qu'avoir 10 personnes au sein du gouvernement, ce n'est pas suffisant? Il faut en avoir plus.
Bien, tous ces problèmes sont liés aux différentes pressions politiques. Hein. Si vous examinez bien, vous trouverez que bon, il y a une pression politique quelque part exercée sur le gouverneur, qui, les recommandations, différentes recommandations des partis politiques qui pullulent ça et là, et le gouverneur est contraint d'aller au-delà des 10 membres du gouvernement et d'en faire 15 ou 20, comme c'est le cas sous examen.
Ok. À votre avis, qu'est-ce qui doit être fait maintenant? On a convoqué les deux gouverneurs à Kinshasa et pour, n'est-ce pas, les interpeller par rapport aux actes qu'ils venaient déposer. Doivent-ils aller jusqu'à annuler ces actes-là ou qu'est-ce qui doit être fait maintenant?
Bien. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que je respecte beaucoup, je crois que je dois m'excuser, il n'a pas compétence de demander au gouverneur d'abroger leurs arrêtés. Donc si illégalité il y a, comme on vient de le constater, qu'on saisisse le Conseil d'État, c'est un acte administratif, ce sont des actes administratifs qui peuvent être annulés par le Conseil d'État. Que rappeler le gouverneur de province aller de violation en violation des dispositions à la fois constitutionnelles et légales, je crois que on ne respecte pas vraiment les lois de notre pays.
Merci. On va accorder la parole aux nombreux auditeurs qui sont en train d'appeler, internautes, hein, pour donner leur point de vue. Et, professeur Yamba, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kalemie dans les Tanganyika.
Ali Mouchaba Joseph Cicéron, depuis Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. La loi de 2008 sur la libre administration des provinces a voulu, à son article 23, alinéa 5, que le membre du gouvernement provincial ne dépasse 10. De ce fait, nommer 10 ministres et 10 commissaires généraux est anticonstitutionnel. Cependant, la question pertinente qu'il faille se poser est celle de savoir si le ministre de l'Intérieur peut suspendre le gouverneur qui pourrait les convoquer d'une façon. Nous pensons que nous sommes en face d'un excès de pouvoir dans le chef du ministre de l'Intérieur car il n'est pas l'autorité hiérarchique des provinces ou des gouverneurs au point de prendre des décisions radicales à leur égard. Donc là, il y a une double violation de la loi. Les décisions des gouverneurs devront être attaquées en annulation devant les juridictions administratives afin de les contraindre à respecter l'ordonnancement juridique existant en RDC. Là, on se preuve d'un état de droit qui est d'agir sous l'empire des émotions.
Oui, professeur Norbert Yamba.
Merci beaucoup. Vous savez, la gouvernance suppose que nous soyons nombreux, ceux qui pensent que le pays doit fonctionner autrement. Et c'est dans cette interaction dynamique qu'on essaye de construire une certaine performance institutionnelle. Je suis très heureux, au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, saluer toutes ces interventions qui apportent un éclairage conséquent pour que nous puissions voir tous dans la même direction. Mais je voudrais également dire que il faut éviter, et là je parle sous contrôle du professeur Gondokoy pour qui j'ai beaucoup d'admiration, d'affection, de dire que nous devons être toujours préoccupés de l'ordre social. Nous devons être préoccupés. La société fonctionne comme dans un diagramme de Venn. On peut pouvoir arrêter en disant tel compartiment est autonome, tel autre est autonome, etc. Mais après tout, nous sommes dans un pays. Et comme nous sommes dans un pays, la circulation de l'information, les contacts, les échanges des idées sont indispensables pour construire la performance institutionnelle. Le prof parlait de la restitution du contexte. Oui, c'était ce contexte-là. Mais je crois avoir...
Il semble s'insurger contre cette tutelle, n'est-ce pas?
Oui. Donc, j'étais en train de dire...
Qui ne doit plus être démise.
Non, mais à ça, on est dans le juridisme. Il faut faire attention. Nous sommes dans un pays en situation difficile. Nous sommes dans un pays où on est en train de chercher de voies et moyens pour s'en sortir. Si on construit une autonomie qui ne correspond pas avec notre âge culturel, ça risque de nous créer problème. Et ça risque d'être un précédent. Restituons le vrai contexte. Le vrai contexte qui a déclenché cette dynamique, c'était autour de la remise des notifications. Même si on reconnaît que voilà, les provinces ont un pouvoir politique. Mais les notifications ont été données par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est que quelque part, il a une responsabilité. Nous sommes des sous-systèmes à l'intérieur du système. Et les différents sous-systèmes sont en interaction dynamique.
Oui,
mais
bon,
il y a un peu d'ordre, excusez.
Quand vous suivez le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, comme les députés Ngoy Kassandji, ils n'ont pas interdit ou ils ne se sont pas opposés au fait que les VPM aient réagi. Mais pour eux, il fallait plutôt que les VPM commencent par saisir la justice. Et le prof Ngondankoy lui parle de la Cour constitutionnelle, et tandis que le député Ngoy Kassandji lui parle de la Cour du Conseil d'État. Voilà. Donc il fallait plutôt, au lieu de convoquer, commencer par saisir la justice.
Je ne sais pas si le fait de convoquer empêche les gens de dormir. Nous sommes dans la salle, on organise la remise des notifications, on donne une certaine philosophie, une certaine vision dans l'opérationnalisation de la nouvelle équipe qui entre, et on s'est dit, au regard c'est pas de la vision du chef de l'État, appliquons-nous pour respecter au minimum les différentes dispositions qui existent, et la première disposition, c'est le respect du nombre. Voilà. Et tout le monde d'accord. Parce qu'en fait, on aurait profité, je me suis beaucoup dit, on aurait profité à ce moment-là de dire, nous ne sommes pas d'accord, nous allons faire ceci, nous allons... Parce que c'était un débat. Et au finish, on a dit que très clairement, on respecterait les nombres. 48 heures après,
quand on a remis les notifications, et donc les gens ont procédé par rapport à ce qu'ils ont accepté de manière consensuelle. Et
vous reconnaissez cette brèche qu'a évoqué le professeur Paul Gaspard Ngonankoy en se référant sur la loi sur la libre
administration des mais l'article 23, les derniers intervenants disaient que même cette loi n'est-ce pas interdit que le nombre de ministres ne puisse pas aller au-delà des 10. Certainement qu'il existe une autre disposition qui donne la possibilité aux provinces, n'est-ce pas, d'ouvrir une fenêtre où ils peuvent créer ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des services. Encore que cela ait, n'est-ce pas, l'harmonie nécessaire pour avoir véritablement ces services. Or, à l'intervalle d'un jour, on crée les services et on les rend opérationnels. Ça devient un problème. Et moi, je dis, c'est là que je voudrais insister, parce que le professeur Ngonankoy, c'est l'un des meilleurs constitutionnalistes que nous avons dans notre pays. On doit combiner le droit. Il est fondamentalement gréco-romain, en fait, et nous, on s'adapte. Mais il faut aussi tenir compte de notre âge culturel. C'est très important. Ça peut faire l'objet du débat, en fait. Parce que si, quelque part, on dit non, parce qu'il y a des compartiments de pouvoir politique, etc., et que plus personne ne puisse justement regarder, même les antivalères, même les dérapages, etc., alors ça deviendra un problème, un danger public. Et c'est là que nous disons que dans l'harmonie entre les différents niveaux de pouvoir politique, le vice-premier ministre, qui a été à la base de cette remise des notifications, il dit, j'appelle le gouverneur pour savoir les motivations. Je les appelle pour savoir les motivations, parce qu'en réalité, il faut construire la paix. Et la paix ne s'acquiert pas par des confrontations. Et c'est comme ça qu'il a invité les deux gouverneurs pour leur montrer le bien fondé, la pertinence de ce qu'a été, n'est-ce pas, un certain nombre de principes levés à la plénière. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec l'analyse, mais je reste branché sur le fait que c'est contre à la fois la Constitution, à la fois la loi c'est pas, organique qui...
avoir organise, plus de 10 ministres.
Avoir plus de 10 ministres.
Voilà.
Certainement,
le VPM convoque les gouverneurs. Et est-ce que c'est juste un échange ou alors c'est des consignes qui seront données en leur disant, écoutez, vous avez pris des actes qui ne sont pas légaux, vous annulez, on annule ces actes-là? Ou alors c'est un échange pour que les autres disent, voilà, si nous avons fait ça, nous avons procédé ainsi, parce qu'il y a une loi qui nous permet de le faire, parce qu'il y a ça. Est-ce que c'est un échange ou alors c'est des consignes qui seront données?
Écoutez, le régionalisme politique n'est pas un État fédéré, non. Il y a une nuance au niveau de l'approche. Même dans la manière...
On dit que c'est l'antichambre, n'est-ce pas?
L'antichambre de l'État fédéral, certes, voilà. Mais ce n'est pas la chambre de l'État fédéral.
Merci.
C'est très important, donc il y a une nuance autour de ça. Et merci. Je voudrais, si dans l'hypothèse, cela a été réalisé, et que personne n'a fait le rappel de troupes, et à ce moment-là, donc, le Congo est au fait, donc plus personne ne va interroger, quoi.
Merci.
Il faut qui devrait saisir, n'est-ce pas, le Conseil d'État, etc. Donc, moi, je pense qu'ici, il faut y mettre un peu d'eau pour désintoxiquer les émotions, mais il faut voir les choses, quoi faire pour sauver la République et construire l'harmonie entre les différents éléments du système.
Merci, professeur Paul Gaspard Ngonankoy. Il y a un auditeur qui nous a écrit depuis Lilongwe au Malawi. Il s'appelle Wakati Mulemera. Il dit, j'encourage le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à veiller à ce que les animateurs des institutions provinciales prennent des décisions en conformité avec la Constitution et les lois de la République. Au Congo, nous avons des bonnes lois qui traînent dans les tiroirs des décideurs. C'est un bon signal et une mise en garde des données au nouveau gouverneur des provinces. Voilà. Professeur Paul Gaspard Ngonankoy. Lui, il encourage plutôt la démarche du VPM.
Oui, je comprends le point de vue de cet auditeur et je l'approuve aussi, effectivement. L'intervention du ministre de l'Intérieur se fait dans un cadre pédagogique. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un processus de régionalisation politique du pays. Le processus n'est pas encore arrivé à son terme. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait compréhensible que le pouvoir central puisse accompagner les provinces à mieux comprendre ce processus et à les inciter à rester dans le cadre de la constitutionnalité, dans le cadre de la légalité. Mais cela ne pousse pas à outrepasser justement ce cadre. Ça doit être absolument, uniquement dans un cadre pédagogique pour aider à l'implémentation de l'ensemble du processus. Cela étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train d'approuver les actes posés par les gouverneurs de province. Et je l'ai dit très très clairement que lorsque l'organisation du gouvernement provincial par le gouverneur aboutit à modifier la composition de ces gouvernements provinciaux, c'est une violation de la règle constitutionnelle qui est inscrite à l'article 198 qui plafonne le nombre de ministres à 10. Il faut ajouter l'article 23 que le gouverneur Ngoï Kassanje a évoqué, mais cet article-là qui n'est qu'une reprise de l'article 198 de la Constitution par simple boursouflure ne veut pas dire que l'origine de la règle, c'est la loi. L'origine de la règle, c'est la Constitution. C'est ce qui fait qu'effectivement, dans les cas d'espèce, ce qui se pose d'abord, c'est le problème de la constitutionnalité de la loi, ensuite celle de l'arrêté du gouverneur de province. Parce que si on saisit le Conseil d'État, on va en fait inciter le Conseil d'État au cours des débats à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi elle-même. Or, telle n'est pas la compétence du Conseil d'État. C'est la compétence de la Cour constitutionnelle. Heureusement que notre Cour constitutionnelle a également la compétence de connaître de la constitutionnalité des règlements, des actes réglementaires. Et donc, dans les cas d'espèce, même ces arrêtés de gouverneurs de province peuvent être déférés directement devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 162 de la Constitution. Voilà pourquoi, plutôt que d'aller devant le Conseil d'État, je plaide pour que ce soit la Cour constitutionnelle, parce que la règle est d'origine constitutionnelle. Et en plus, dans les cas d'espèce, parce qu'un ministre du pouvoir central est intervenu, ce qui donne à penser qu'il y a un conflit qui est né entre le pouvoir central et les provinces, l'article 161, alinéa 3 de la Constitution, dit très clairement que dans ce cas-là, c'est la Cour constitutionnelle qui statue. Voilà pourquoi je comprends ce rôle pédagogique du ministre du pouvoir central, mais il n'en demeure pas moins que la rigueur de la règle constitutionnelle doit rester de mise, et même si pour cela on pense qu'il s'agit du juridisme, je pense plutôt que le droit ayant la mission d'encadrer les phénomènes politiques, il faut faire en sorte que le phénomène politique qui intervient sans ordre, parfois avec des considérations tout à fait parfois légitimes, afin que ces phénomènes politiques ne n'outrepassent pas le cadre juridique. Parce que à quoi sert-il d'avoir un cadre juridique si on n'est pas capable de le respecter?
Merci.
C'est tout le problème de l'état de droit.
Merci, honorable Ngoï Kassanje. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, sud Kivu.
Gabriel Ekwalanga, depuis Bukavu, au sud Kivu. En principe, le ministre de l'Intérieur est dans son pouvoir légitime de faire appel à ses deux gouverneurs qui ont agi en violation des lois de la République. Mais à mon avis, ces deux gouverneurs ne sont pas du tout à condamner, car la formation du gouvernement, que ce soit au niveau national, qui est provincial, est devenue un casse-tête dans notre pays. Supposé, dans un pays avec au moins 1000 partis politiques et regroupements, comment voulez-vous qu'un gouverneur parvienne à former un gouvernement de 10 membres face à une telle multitude de partis? Sans oublier aussi les influences et appétits insatiables des autorités morales des partis de l'Union sacrée de la nation. Quand on est dans une famille à plusieurs enfants, même le partage de la nourriture devient aussi un problème. Il n'y a que les plus âgés et les plus forts qui mangent la grande quantité. C'est ça aussi le cas congolais et plus particulièrement de ses gouverneurs.
Honorable Alphonse Ngoï Kassanje.
Bien, ce que l'auditeur vient de dire, il a parfaitement raison, c'est ce que j'ai dit. Il y a que les gouverneurs sont confrontés aux difficultés des recommandations de leur famille politique, de la hiérarchie politique, ainsi de suite. Donc, vous voyez, qu'en ce moment-là, ayant peur de perdre son poste, bon, il faut gazer celui-ci, gazer celui-là, il faut trouver une formule pour satisfaire celui-là, s'il est mon chef hiérarchique, Voilà tous les problèmes qu'il y a. Mais tant à encourager les habitudes qui ne sont pas des habitudes illégales, qui consistent à convoquer même les membres des organes délibérants à Kinshasa, je pense que c'est piétiner la décentralisation. Donc, la vider des substances. Alors, à quoi c'est bon d'avoir décentralisé le pays? Parce que qui dit décentralisation dit l'autonomie administrative et financière. C'est la Constitution qui le dit. Et donc, mais si tout le temps, le ministre de l'Intérieur doivent inviter le gouverneur, pas simplement les inviter. Il y en a même qui sont allés jusqu'à leur interdire de l'entrée dans leurs provinces respectives, jusqu'à la fin, et ils ont perdu leur mandat comme ça, parce que, bon, le ministre de l'Intérieur les a appelés ici. Ce sont les habitudes que nous devons décourager.
Honorable Ngoï Kassandji.
Pourquoi ne... oui.
Oui, nous sommes presque à la fin de l'émission, donc on va commencer à conclure. Hein. Vous êtes, je l'avais dit, hein, vous avez fait 12 ans dans une province, vous avez une longue expérience comme au gouverneur. Et là, on a affaire, le prof Ngonankoy l'a dit, on a affaire maintenant à une sorte de conflit, n'est-ce pas, entre les ministres de l'Intérieur, les VPM intérieurs et les gouvernements provinciaux, parce que les deux parties, chacune a sa façon de percevoir cette question précise de la mise en place, n'est-ce pas, des gouvernements provinciaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir, pour mettre fin à ces conflits, parce que les gouverneurs sont en train de former les gouvernements actuellement. Donc il faut qu'on puisse clarifier cette situation afin qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, se retrouver une fois de plus devant cette situation où les VPM seraient dans l'obligation d'interpeller certains gouverneurs. Que faut-il faire pour le moment, vous, en tant qu'ancien gouverneur?
Bien, ce qu'a dit le vice-doyen de ma faculté, l'honorable Kondangoyi, mon collègue, est vrai. Quand il y a conflit de compétences et violation de la Constitution, on saisit le Conseil d'État pour clarifier les choses. Mais un acte administratif, comme l'arrêté du gouverneur, il suffisait de saisir le Conseil d'État. S'il y a illégalité, saisir le Conseil d'État. Bon, le Conseil d'État déclare la nullité de cet arrêté. Et donc, mais que créer un problème, les habitudes là, d'inviter les gouverneurs, et ils sont là, quelqu'un peut venir rester ici éternellement, ça, nous devons décourager ça, nous devons au moins respecter les lois de notre pays et leur application.
Merci, professeur Paul Gaspard Ngonankoy. Vous allez aussi, n'est-ce pas, conclure. Hein? S'il faut saisir la justice, qui doit saisir la justice? Est-ce que c'est les gouverneurs parce qu'ils sont interpellés, ils sont convoqués à Kinshasa, ils se sentent, n'est-ce pas, lésés? C'est plutôt eux qui doivent saisir la Cour constitutionnelle comme vous l'avez souhaité, ou c'est plutôt l'initiative doit plutôt venir des VPM intérieurs?
Non, c'est la personne qui reproche aux arrêtés leur inconstitutionnalité, qui a intérêt à ce que la Cour tranche. Et dans le cas d'espèce, j'ai l'impression que c'est plutôt du côté du pouvoir central qu'on semble soupçonner d'inconstitutionnalité ces arrêtés. Mais je le répète en conclusion, la pratique qui consiste pour le gouverneur de province à prévoir dans la composition de leur gouvernement la présence des commissaires généraux, y compris en leur donnant le rang de ministre, avec possibilité d'engager ou non leurs responsabilités devant les assemblées provinciales, cette pratique, disais-je, trouve son fondement légal actuellement à l'article 27 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'administration des provinces, qui elle-même, cette loi, pose problème du point de vue de sa constitutionnalité. Et donc la loi faisant écran, le principe étant d'origine constitutionnelle, c'est à la Cour constitutionnelle au final qu'il revient à la compétence de dire si oui ou non cette loi demeure encore conforme à la Constitution. Et par voie de conséquence, les arrêtés des gouverneurs de province vont s'adapter à la décision de la Cour constitutionnelle qui déclarera inconstitutionnelle la loi portant l'administration des provinces.
Merci, professeur Norbert Yambayaba. Et qu'est-ce que vous proposez, parce que vous représentez les VPM intérieurs ici dans cette émission, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on sorte de cette sorte de confusion. Étant donné que, nous l'avons rappelé ici, les gouverneurs sont en train de préparer leur gouvernement, ils sont en train de former leur gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on sorte de cette confusion et permettre à ce que, qu'on ne puisse plus faire face à ces genres de situations?
Je pense qu'à écouter les intervenants de tout à l'heure, tout le monde est d'accord que les lois de la République ont été violées par le gouvernement. Que ce soit la Constitution, son article 198, que ce soit la loi 012 sur la libre administration, à son article 23, démontre très clairement qu'il y a eu violation de la loi. Et lorsqu'il y a violation de la loi, c'est très clair qu'il faut une remise en question. Je crois que la discussion porte essentiellement sur le fait que quelle devra être la compétence du vice-premier ministre par rapport à ça. Mais la loi,
non, il y a aussi cette divergence de vue par rapport à cette question précise, n'est-ce pas?
Oui.
Et le prof Nguyenko a encore rappelé l'article 27 de la loi sur la libre circulation des provinces.
Oui.
Et donc, à partir du moment où il y a cette
il a rappelé,
il faut faire quoi?
Il a rappelé la constitutionnalité même de cet article 27, en fait. Mmh. Et c'est là que je voudrais quand même que, lorsqu'on fait la discussion, que nous puissions ne pas avoir des émotions, j'allais dire toxique, dans la manière de percevoir les choses.
Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on sorte de cette confusion?
C'est que je ne peux pas non plus proposer quoi que ce soit ici, dès lors que la décision a été déjà prise, les discussions ont eu lieu entre l'autorité et les gouverneurs de province, et l'autorité en tant que responsable de la territoriale. Je crois que...
Quelles sont les décisions qui ont été prises à l'issue de cette
Il a parlé de sursoi, pour qu'on voit clair par rapport à la situation. C'était clair, lisez le sursoi. Ça ne va pas dire
qu'il il a ses pouvoirs là.
Au moins, pourquoi il a donné des notifications? Si c'est un électron libre qui circule comme ça, si, pourquoi
qu'est-ce qu'on fait pour le moment? On attend quoi? Parce qu'il a demandé de ce soir, on attend quoi maintenant?
Mais les discussions continuent. Les discussions continuent.
Mais en attendant, les autres gouverneurs doivent continuer à
Les autres
à
gouverneurs doivent, doivent s'inspirer de cette leçon-là pour ne pas prendre le risque
qu'il forme le gouvernement conformant à l'article 198 de la Constitution ou à l'article 27 de la loi de la libre administration
des provinces. Que ce soit l'article 198, que ce soit l'article 23, les constitutionnalités de l'article 27, qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est plus légitime que la Constitution? C'est très important. Et d'ailleurs, il faut éviter la confrontation. Il faut éviter l'animosité. Les institutions ont besoin d'être oxygénées. Et jusqu'à preuve du contraire, la motivation de départ de la limitation à 10 ministres, c'était en fonction de la lutte contre la pauvreté. Si l'on veut construire une bourgeoisie politique, alors là, ça devient un danger public. Et puis, on va baisser dans les émotions. Le peuple ne sera pas soutenu par qui que ce soit.
Merci, voilà. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci au professeur Paul Logasman Onankoy, au professeur Norbert Yambayamba et à l'honorable Noé Kassanji d'avoir accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Merci également à Dona Madimba qui l'a réalisé, Mimi Kindou qui était à la technique avec la participation de Clément Chimanga, de Jonathan Fouanani et d'Hervé Voka sous la supervision de Marthe Boujangwe à la présentation. Guy Maté, merci une fois de plus. Bonne suite de programme sur Radio Capitale.